Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand privilège pour Francine, mon épouse, et pour moi d'être avec vous ce matin. C'est effectivement la première fois que nous sommes dans votre temple, mais ce n'est pas la première fois que nous rencontrons une grande partie des gens de votre assemblée. Nous avons beaucoup de souvenirs avec beaucoup parmi vous. Nous avons eu des souvenirs d'église, nous avons eu des souvenirs de projets, des souvenirs de voyages. Nous avons vécu des choses extrêmement fortes ensemble avec le Seigneur. C'est une grande joie de vous revoir, c'est une grande joie aussi de découvrir de nouveaux visages et de voir que l'Église de Dieu grandit. Je vous apporte les salutations de notre communauté, l'Église protestante baptiste de Liège, à la rue Dony, donc dans le quartier Saint-Léonard, et de son pasteur, que plusieurs connaissent parmi vous, Jean-François Lequeux. Dieu parle, qui écoute. Nous avons commencé les vacances d'été. Traditionnellement, le temps des vacances est plutôt perçu comme un moment où nous pouvons nous placer à l'écoute de Dieu. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce sera le cas? Pendant la pandémie de Covid, si vous vous rappelez, nous avons pensé, et les chrétiens en tout cas le pensaient, que ce temps particulier de souffrance, d'épreuve, serait propice pour écouter Dieu. Or, nous avons constaté que ce n'était pas le cas. Tous les responsables d'église, d'ailleurs, l'ont constaté. Au lieu de se rapprocher de Dieu, les gens s'en sont plutôt éloignés. Pourquoi? Parce qu'écouter Dieu, ce n'est pas une question de circonstance ou de disponibilité. Pendant la pandémie de Covid, nous avions du temps à revendre. Les circonstances aussi nous ont poussés à rechercher Dieu. C'était un temps de grande souffrance, de deuil. Vous connaissez tous, vous avez peut-être eu parmi vos proches des personnes qui sont décédées. Certains ont perdu leur emploi parce que les activités se sont arrêtées. Les contacts sociaux ont été perdus. Nous avions peur de la maladie, peur de la mort, etc. C'était un temps extrêmement difficile. Et on s'est dit, c'est un moment qui va rapprocher les gens de Dieu. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas naturellement attiré vers Dieu. L'apôtre Paul, dans le troisième chapitre de l'Épître aux Romains, le dit, « Aucun être humain ne cherche Dieu. » L'opportunité que nous avons, ou bien le besoin, même qu'il s'agit de besoin le plus pressant, ne crée pas les bonnes conditions pour écouter Dieu. Il s'agit avant tout d'une disposition intérieure, d'une attitude du cœur, d'une attitude de l'esprit. Il ne s'agit pas d'être disponible, mais d'être disposé. Il s'agit surtout de vouloir écouter Dieu. Et la question à nous poser est celle-ci, sommes-nous ou suis-je disposé à écouter Dieu? Je vous propose de réfléchir sur ce thème, Dieu parle, qui écoute, au travers d'un texte que nous trouvons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, et je vais lire avec vous les 10 premiers versets. 1 Samuel 3, et nous allons lire les 10 premiers versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque et les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel va se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole. Les versets qui suivent ce passage vont préciser quel message Dieu adresse à Samuel. Et c'est un message de jugement. Ce n'est pas un message pour Samuel, c'est un message pour qu'il soit le porte-parole de jugement adressé à la famille du grand prêtre Élie à la suite du comportement de ses fils Ophni et Phinée. Et pour comprendre, situons d'abord le contexte. Nous sommes à la fin de l'époque des juges. Élie est l'avant-dernier juge en Israël. Samuel sera le dernier juge et le premier prophète. Élie exerce aussi la fonction de grand prêtre, de souverain sacrificateur. Et à ce titre, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Élie parle des hommes à Dieu. Et en plus de cela, de par sa fonction de grand prêtre, une fois par an, il doit entrer dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre, pour présenter à Dieu le sang des animaux qui ont été offerts en sacrifice pour obtenir l'expiation des péchés. Mais Élie parle aussi de Dieu aux hommes. Il est chargé de transmettre la parole de Dieu aux hommes. Mais dans ce domaine-là, Élie est défaillant. Élie n'est pas un modèle de grand prêtre. Élie n'est pas un modèle de prêtre comme Dieu voudrait et comme la parole de Dieu nous le montre. Esdras, par contre, lui, était un prêtre qui a accompagné les Juifs revenus de déportation de Babylone à Jérusalem, et il nous donne l'image du prêtre idéal, tel que la Bible nous en parle. Dans Esdras 7, verset 10, en effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Donc, quelle est l'image, quel est le modèle du prêtre idéal? Premièrement, étudier la parole de Dieu. Deuxièmement, mettre en pratique la parole de Dieu. Et troisièmement, enseigner la parole de Dieu. Et c'est dans le deuxième point que le bât blesse. Certains étudient la parole de Dieu, transmettent la parole de Dieu, mais ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'était ce qui se passait avec Élie et avec ses fils. Et son cœur n'était pas impliqué. Il n'avait pas appliqué son cœur comme Esdras l'a fait. En tant que chrétien, la Bible nous dit que nous avons été rachetés par Jésus-Christ qui a fait de nous des prêtres. Dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, nous lisons « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes en Jésus-Christ des prêtres. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Par sa haute fonction de grand prêtre, Élie représentait aussi l'autorité morale. Il devait veiller à ce que la parole de Dieu, et notamment les commandements de Dieu, soient transmis au peuple et aussi mis en pratique. Mais Élie a perdu son autorité morale. Il n'arrive même pas à faire en sorte que ses fils écoutent et obéissent à la loi de Dieu. Et ses fils, Ophni, Phinée, sont des prêtres, mais ils sont devenus complètement dépravés. 1 Samuel 2,12 nous apprend que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils profanaient le lieu sacré où ils exerçaient leurs fonctions, la tente de la rencontre avec Dieu. Ils couchaient même avec des femmes devant l'entrée de la tente, nous dit le texte. Et l'un des deux, Phinée, était pourtant un homme marié, son épouse était enceinte, mais ça ne les arrêtait pas. Il profanait aussi les sacrifices que les gens venaient présenter en obéissance à la parole de Dieu. Il prenait pour eux le meilleur de ces sacrifices qui auraient dû normalement revenir à Dieu. Ils étaient prêtres de Dieu, mais ne respectaient pas ni la sainteté de Dieu, ni ses commandements. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. Et plus grave encore, par leur mauvais exemple, nous dit le chapitre 2, ils faisaient pécher le peuple de l'Éternel. Ils entraînaient le peuple dans leur péché. Et devant leur attitude, leur père, le grand prêtre Élie, était intervenu de manière assez molle, assez faible, sans vraiment leur faire de reproches, sans prendre les mesures radicales que méritait leur comportement, si bien qu'ils ont continué à agir. Élie non plus n'écoutait pas Dieu. Et pourtant, un homme de Dieu, nous dit chapitre 2, était venu l'avertir du jugement imminent qui attendait sa famille. Mais ça n'a pas changé son comportement ni celui de ses fils. On doit relier le début du premier livre de Samuel à la fin du livre des juges, parce qu'il y a un continuum historique qui permet de comprendre la situation morale, spirituelle et politique de l'époque. Le peuple d'Israël avait sombré dans l'idolâtrie et l'immoralité. Et le verset qui termine le livre des juges est éclairant. Il est cité deux fois, dans le chapitre 17 et dans le chapitre 21. Et il nous explique pourquoi cette situation existait. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dieu incarnait l'autorité. L'autorité politique, l'autorité spirituelle, l'autorité morale, et il avait été rejeté par son peuple. Et on vivait alors en plein relativisme moral, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que cette époque vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous arrivez à imaginer cette époque? Bien évidemment, il y a un parallèle évident avec la nôtre, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société où chacun fait ce qui lui semble bon, où chacun décide ce qui est bien et ce qui est mal, où chacun a sa vérité, où chacun utilise le mensonge comme un moyen pour atteindre le but sans aucune connotation morale. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais ça veut dire aussi que nous ne voulons pas écouter Dieu parce que nous ne voulons écouter que nous-mêmes. Et là, nous revenons en fait à l'essence même du péché d'Adam et Ève. Qui allons-nous écouter? Est-ce que nous allons écouter Dieu? Est-ce que nous allons écouter l'adversaire qui nous pousse à la tentation? Est-ce que nous allons écouter nos propres désirs? Et nous savons bien que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont rejeté Dieu, rejeté ses commandements pour vivre en autonomie par rapport à Dieu. Étymologiquement, le mot grec autonomie veut dire une loi à soi-même. Et c'est bien ce que nous vivons. Chacun s'écoute, chacun pour définir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, ses lois, sa morale, la vérité, etc. Ce refus d'écouter Dieu explique aussi ce que nous lisons en 1 Samuel 3:1. La parole de Dieu était rare à cette époque. Et il y a là en effet une conséquence du fait que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire ou parce qu'il est dépassé par les événements, c'est parce que l'homme ne veut pas l'écouter. Comme l'a écrit le pasteur Alain Arnoux, entre Dieu et l'homme, celui qui n'écoute pas, c'est l'homme. Dans ce contexte de relâchement spirituel et moral assez similaire au nôtre, un jeune homme prénommé Samuel commence une vie au service de Dieu. Et sa trajectoire va être totalement différente de celle d'Élie et de ses fils, parce que lui va se mettre à l'écoute de Dieu. Et j'aimerais concentrer notre réflexion sur les instructions qu'Élie, il a quand même eu quelques bons moments, pas tant que ça, mais là il a quand même agi avec sagesse, lorsqu'il donne comme instruction au jeune Samuel, « Dis à celui qui te parle, parle éternel, car ton serviteur écoute. » Et le premier point que j'aimerais voir avec vous est le suivant. Dieu parle. Dieu parle. Parle éternel. Dieu parle. La raison principale pour écouter Dieu n'est pas parce que nous avons le temps de le faire ou parce que les circonstances nous y poussent, mais parce que Dieu parle. John Stott l'affirme assez catégoriquement, parce que Dieu parle, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter parce que c'est Dieu qui parle. Le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Admettons que votre GSM sonne, quelqu'un au téléphone vous dit « Attendez, ne quittez pas, vous recevez un appel du Premier ministre, du roi d'Angleterre, d'Elon Musk ou de Lionel Messi, je ne sais pas qui. » Est-ce que vous allez refuser de répondre à son appel? Bien sûr. Ce ne sont que des hommes. Mais que faisons-nous des appels et de la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'un des reproches majeurs faits par les non-chrétiens est que Dieu est silencieux et invisible. Mais la Bible, et Jésus en particulier, nous invite à ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre cœur pour voir et écouter Dieu qui parle. Le texte d'Hébreux 1, les versets 1 à 3, résume les façons dont Dieu nous parle. Verset 1, « Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu parle à tout le monde, à tout le monde, par sa création et dans notre conscience. C'est ce que les théologiens appellent la révélation générale. Elle est générale parce qu'elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut la voir, tout le monde peut l'entendre. Le récit de la création dans Genèse chapitre 1 nous montre que l'univers, la nature et l'être humain ont été créés par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit. Dieu a parlé pour créer et aujourd'hui, par sa création, il parle encore. Parce qu'en Dieu, parole et action sont indissociables. Quand Dieu parle, il agit et quand Dieu agit, il parle. Jacques Ellul écrit, déclarer que Dieu parle, ce n'est pas forcément faire allusion au langage, à la parole parlée de l'humain, c'est simplement dire qu'il agit. Et aujourd'hui, quand nous contemplons la création dans sa beauté, dans son immensité, dans sa complexité tellement prodigieuse, tout cela nous renvoie à l'écho de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul explique que ne pas reconnaître Dieu dans sa création nous rend inexcusables devant lui. Il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu dans Romains 1, 19 est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde et se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Et ce passage souligne en fait notre responsabilité envers Dieu qui parle. Mais Dieu parle aussi dans notre conscience. Et nous avons fait référence tout à l'heure à la création et au jardin d'Éden. Et dès le début, dès la création, Dieu a donné à l'homme et à la femme un sens moral. Il leur a dit, vous pouvez tout faire, sauf une chose. Il leur a appris à distinguer le bien et le mal et à choisir. Il leur a donné une conscience du bien et du mal. Nous savons ce qui est arrivé, nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève, la désobéissance, la chute, la séparation avec Dieu, les conséquences de malheur, de souffrance et de mort qui découlent de cette désobéissance que la Bible appelle le péché. Mais tout ça n'a pas mis fin à la parole de Dieu. Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu a continué de parler. Et Dieu a parlé par la Bible. Et c'est ce que les théologiens appellent la révélation spéciale. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné à l'être humain des lois, des commandements, des commandements notamment, qu'on appelle aussi les dix paroles, pour que nous puissions faire clairement la différence entre le bien et le mal, et surtout choisir de pratiquer le bien. Et même si aujourd'hui, à cause du péché d'Adam et Ève, qui rejaillit sur nous, notre conscience est corrompue par le péché, même si chacun fait ce qui lui semble bon, nous conservons tous un sens moral, même les athées. Tout le monde est convaincu d'une certaine manière que certaines choses sont objectivement bonnes ou objectivement mauvaises. L'athée le plus convaincu acceptera difficilement que les génocides, la torture ou les meurtres d'enfants ne soient pas un mal. Chacun reconnaît la valeur de l'être humain. Chacun considère l'amour comme un bien, comme une valeur positive, un bien supérieur. Et pour ceux qui n'auraient pas de contact avec la Bible, l'apôtre Paul explique dans Romains 2, 12 à 16, nous n'irons pas à ce passage, que la loi de Dieu, son œuvre, son contenu, sont écrits dans le cœur humain. Donc Dieu s'adresse à notre conscience en utilisant à la fois ses commandements qui sont écrits dans la Bible et sa loi qui est écrite dans nos cœurs. Et devant la création de Dieu, comme face à sa loi, nous ne pouvons pas invoquer l'excuse que Dieu ne parle pas. Dans un monde déchu, Dieu a continué à parler à l'humanité qui lui tournait le dos. Mais parfois, il doit augmenter le volume, il doit monter le son. Et Dieu utilise parfois des événements pénibles, des drames, des catastrophes collectives ou des drames personnels pour se faire entendre. Et dans Lévitique 26, 14 à 45, que nous ne lirons pas, nous voyons que Dieu utilise ces épreuves de manière graduelle pour que nous l'écoutions. Il envoie des souffrances, des épreuves, des difficultés. Et il dit à 4 reprises dans ce chapitre, si vous ne m'écoutez pas, alors il annonce qu'il va aggraver ses jugements. Parce que nous sommes assez durs de la feuille. Dieu monte le son parce que la souffrance nous rend plus sensibles à sa voix. La souffrance devient alors une sorte de mégaphone de Dieu. Et C.S. Lewis l'a bien expliqué lorsqu'il écrit « Dieu nous parle à voix basse, dans nos plaisirs, à haute voix, dans notre conscience, mais sa voix devient une clameur dans nos peines. Elles sont le porte-voix dont il se sert pour réveiller un monde sourd. » Mais le but de Dieu, et nous le voyons dans Lévitique 26, 40 à 45, le but que Dieu poursuit toujours, c'est que nous revenions vers lui. Dieu ne s'amuse pas à nous faire du mal. Dieu envoie des épreuves pour que nous l'écoutions et revenions vers lui. Dieu a parlé aussi par les prophètes, dit le texte d'Hébreu, depuis Samuel, le premier prophète, jusqu'à Jean-Baptiste. Dieu a chaque fois choisi des porte-paroles pour inviter justement le peuple à écouter Dieu et à revenir vers lui. Et le texte d'Hébreu 1 nous dit qu'après avoir parlé de toutes ces manières, dans les derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils dont il est question, bien sûr, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu le Fils de l'homme. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Dieu parle de manière ultime, de manière définitive, par Jésus-Christ. Il nous parlait déjà par Jésus-Christ dans la création. Jean 1 nous dit qu'au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que tout a été créé par cette parole. Il était déjà présent. Mais lorsqu'il est venu vers nous, la Bible nous dit que nous avons pu le contempler lorsque cette parole est devenue chair, lorsque Jésus-Christ est devenu homme. Et Jean 1, 14 nous dit, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et là, Dieu s'est mis à notre niveau pour nous parler de plus près encore. Il a rendu sa parole encore plus audible, encore plus accessible. Il est venu nous dire la vérité sur nous-mêmes. Oui, nous sommes pécheurs, oui, nous sommes coupables devant Dieu. Ça, c'est la première partie du message, la mauvaise nouvelle. Mais il est venu aussi nous dire la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, qui dans son amour est venu nous sauver par Jésus-Christ. Et Jésus nous a parlé non seulement par ses enseignements, mais il nous a parlé par sa vie, parce que toute sa vie nous parle, sa compassion. Son association de sa parole et de l'action pour guérir, pour soulager, pour délivrer, pour apaiser toute forme de souffrance, pour libérer toute forme d'esclavage. Jésus nous parle aussi par sa perfection. Il n'a jamais commis le moindre péché, par ses miracles, par sa mort sur la croix, où il a donné sa vie pour nous. Et lorsque l'évangile de Matthieu nous dit, Matthieu 27, 50, nous dit que sur la croix, Jésus-Christ a rendu l'esprit en prononçant un grand cri qu'il a prononcé, ce cri « Tout est accompli ». C'était sans doute la parole d'amour la plus retentissante jamais prononcée. Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a subi à notre place la punition que nous méritions pour nos péchés. Mais il nous parle aussi par sa résurrection, parce qu'il est vivant. Il nous montre, il nous dit que sa victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort est aussi notre victoire. Quelle sera notre victoire? Nous sommes responsables de la façon dont nous écoutons ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. En Jésus-Christ, tout est accompli, mais en Jésus-Christ, tout est dit aussi. Il n'y a rien à ajouter. C'est ce que nous dit d'ailleurs le livre de l'Apocalypse. En résumé, Dieu nous parle par sa création. Il nous parle par la Bible, il nous parle par notre conscience, il nous parle par les circonstances, il nous parle par Jésus-Christ. Dieu nous parle de tellement de manières. Que faisons-nous de ce que Dieu essaye de nous dire? Élihu, qui était un ami de Job, vous connaissez sans doute son histoire, qui a été accablé d'épreuves insupportables pour un homme, et qui, au milieu de l'épreuve, ne voulait pas entendre la voix de Dieu dans sa souffrance, un de ses amis, donc Élihu, est venu à lui et lui a dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Et peut-être que si nous n'entendons pas la parole de Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas l'écouter. Il est important de réaliser que nous sommes responsables non seulement d'écouter Dieu, mais aussi de la manière dont nous l'écoutons. Et je vais passer au point 2 et 3, et que je vous rassure tout de suite, ça va être très Très court, nous arrivons déjà vers la fin du message. La deuxième partie de ce que Samuel a dit, ou devait dire, c'est « Parle éternel, ton serviteur écoute. » Parle éternel, ton serviteur écoute. Dieu appelle Samuel personnellement, nous l'avons lu dans le texte. Samuel, Samuel, il appelle par son prénom. Le Dieu personnel, le Dieu infini, le tout autre, le créateur de l'univers, la parole éternelle s'adresse à nous, personnellement. Et c'est à chacun de nous que Dieu parle dans la Bible. Ce que Dieu dit, il nous le dit. Chaque parole de la Bible, nous devons le prendre pour nous-mêmes. Dieu veut avoir avec nous un dialogue personnel. Et ça devrait nous remplir d'émerveillement, de reconnaissance. Nous disons aussi que Samuel ne reconnaît pas la voix de Dieu. Il apprend pour une voix humaine, il apprend pour la voix d'Élie, un homme dont nous connaissons les faiblesses. Et c'est vers Élie qu'il va se diriger lorsqu'il entend la voix de Dieu. Parfois, nous pouvons confondre la voix de Dieu et la voix des hommes, mais parfois nous pouvons prendre la voix des hommes aussi pour la voix de Dieu. Cela arrive aussi. Assurons-nous de ne pas confondre la voix de Dieu avec celle de personnes qui n'écoutent pas Dieu. N'écoutons pas ceux qui prétendent « Dieu m'a dit » et qui agissent en contradiction avec la parole de Dieu. Nous disons en fait que le dialogue s'installe et que l'écoute de Dieu peut commencer quand Samuel réalise, mais qui parle ? Éternel. Dieu me parle. Et qu'il adopte la bonne attitude, celle d'un serviteur, parce que nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu n'importe comment, nous ne pouvons pas l'écouter sans réaliser qui il est, qui nous sommes. Le Dieu Tout-Puissant, c'est limité. On parlait de limitation tout à l'heure. Dans notre humanité, il a renoncé à ses privilèges divins pour partager la condition humaine, et même Philippiens 2 nous dit qu'il est devenu comme un esclave, un serviteur, et que même, nous dit Jean 13, il a lavé les pieds de ses disciples, une tâche qui était réservée aux esclaves. Et il l'a fait pourquoi ? Pour démontrer non seulement qu'il les aimait à l'extrême, nous dit Jean 13, hein, mais il leur a laissé aussi un exemple. Le roi des rois est devenu le roi serviteur, il nous laisse un exemple. Pour écouter Dieu, nous ne pouvons pas nous placer au-dessus de Jésus-Christ. Le roi des rois est devenu le serviteur. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. À plus forte raison, si le maître est devenu un serviteur, combien nous aussi devons-nous adopter cette attitude de serviteur ? Nous devons nous abaisser aussi bas qu'où Jésus s'est abaissé. Si nous adoptons une autre position que celle de serviteur, nous nous plaçons au-dessus de Jésus-Christ. Et quand nous nous plaçons au-dessus de Jésus-Christ, nous ne voulons plus l'écouter, nous voulons le forcer à nous écouter. Samuel réalise que c'est Dieu qui parle et qu'il ne peut l'écouter que dans une attitude de serviteur. Troisième point, écoutez. Écoutez vraiment. Parle, éternel, ton serviteur, écoute. Dans quelle attitude écoutez Dieu ? Une collègue de travail m'a dit un jour, le problème n'est pas de trouver quelqu'un qui écoute, mais de trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Et ça fait toute la différence. Écouter Dieu vraiment, c'est d'abord l'écouter avant de parler. On se précipite souvent devant Dieu avec nos demandes, nos requêtes, notre longue liste de choses que nous aimerions que Dieu fasse pour nous. Tout ça est important, tout ça est urgent, pressant. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu d'abord. Et l'Ecclésiaste nous donne un sage conseil. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 1. Ce temps de silence et d'écoute devant Dieu, avant de lui présenter nos requêtes, va nous aider à écouter et à faire aussi le tri dans nos demandes, parce que beaucoup de nos demandes sont égoïstes. Elles ne sont pas forcément agréables à Dieu, elles ne glorifient pas Dieu. Prenons le temps d'écouter avant de parler. Deuxièmement, écouter vraiment, c'est accepter toutes les paroles de Dieu, même les plus difficiles. Et la parole que Dieu a adressée à Samuel pour Élie et sa famille n'était pas une parole facile à dire, pas facile à transmettre. Et d'ailleurs, il était assez réticent dans la suite du récit à dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Mais écouter vraiment Dieu, c'est d'abord accepter pour soi-même toutes les paroles de Dieu, même les plus difficiles. Accepter de les entendre, accepter aussi de les transmettre si c'est nécessaire. Écouter vraiment, c'est aussi obéir à ce que Dieu nous commande. Notre problème n'est pas que nous ne sachions pas ce que Dieu veut. Quand nous sommes chrétiens, nous savons ce que Dieu veut. Le problème n'est pas que nous ne comprenions pas ce que Dieu veut. Le problème, c'est que nous n'obéissons pas à ce que nous savons et à ce que nous avons compris de la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, alors, notre attitude d'écoute n'est qu'un rituel creux si elle n'est pas accompagnée de notre obéissance. Et bien plus tard, Samuel fera ce reproche au roi Saül lorsque dans 1 Samuel 15, 22, il dira à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» L'obéissance à sa voix. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Je termine avec quelques applications. Si Dieu parle, qu'attendons-nous pour l'écouter? Qu'attendons-nous pour l'écouter? Est-ce que nous allons traverser ce temps de l'été, l'occasion qui nous est donnée, sans nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, plus particulièrement? Deuxième application, écoutons Dieu là où elle est, où elle se trouve, là où elle est explicite dans la Bible. Nous l'avons vu, elle est la révélation complète, elle est la révélation parfaite de Dieu. Écoutons les serviteurs de Dieu fidèles à sa parole. Pour ne pas confondre la parole de Dieu avec la parole des hommes, pratiquons ce test de véracité des chrétiens de Béret, vous connaissez dans Actes 17, verset 11. Et attention, il s'agit de lire le texte de la bonne manière. Il n'est pas écrit qu'ils examinaient chaque jour ce qu'on leur disait pour le comparer ensuite aux Écritures. Certains passent plus de temps sur Internet à écouter ce que les gens disent de Dieu ou de la Bible que d'écouter ce que Dieu dit à la Bible. Il est écrit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils passaient leur temps dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Lorsque nous passons du temps à l'écoute de la parole de Dieu, nous serons capables de distinguer le vrai du faux, la vérité en crise des fausses doctrines, le bien et le mal pour choisir le bien. Application 3, notre attitude de prière montre-t-elle que nous avons conscience de qui parle et de qui écoute? Entrons dans l'intimité de Dieu avec l'humilité d'un serviteur, en nous rappelant sa sainteté, sa grandeur, sa gloire, son amour, sa grâce, sa bienveillance, sa bonté. Écoutons Dieu dans une attitude de service. Soyons déterminés à le servir, quoi qu'il en coûte. Enfin, quatrième application, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Examinons ce qui, dans notre vie, n'est pas conforme à ce que nous savons de la parole de Dieu. Le problème des prêtres Ophni et Phinée, c'est qu'ils étudiaient la parole de Dieu, ils enseignaient la parole de Dieu, mais ils n'appliquaient pas la parole de Dieu. Reconnaissons ces attitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Reconnaissons-les pour ce qu'elles sont, des péchés. Confessons-les à Dieu, renonçons-y et confions-nous dans la grâce de Dieu. Dieu qui pardonne, Dieu qui transforme. En conclusion, je lirai simplement un verset dans Hébreux 12, 25, où l'auteur nous dit « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Bien-aimés, ne refusons pas d'écouter Dieu qui nous parle. » Adoptons cette attitude de Samuel envers Dieu et disons-lui, par éternel, ton serviteur, ta servante, écoute. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, Nous devons reconnaître que tu parles de bien des manières et que souvent nous ne t'écoutons pas, nous ne sommes pas attentifs à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Et parfois même, Seigneur, nous entendons bien ce que tu nous dis, mais nous ne t'écoutons pas parce que nous ne voulons pas t'obéir. Et nous le reconnaissons humblement devant toi. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous permettes d'appliquer notre cœur à mettre en pratique ta parole, à l'écouter, à la mettre en pratique et à la transmettre. Seigneur, que nous ne laissions tomber aucune de tes paroles à terre, comme dit ta parole, mais qu'elles puissent, en entrant dans notre esprit et dans notre cœur, transformer notre vie pour le bénéfice de tous ceux avec lesquels nous sommes en contact et pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.